Katie, bonjour.
Bonjour Elsa.
Et on commence, Katie, par l'ouverture à nouveau de ces négociations, notamment pour la libération des otages, un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est à Doha que ça se passe.
Absolument, cela débute en ce moment même, Elsa. Des négociations entre Israël et le Hamas, pas en direct, dans deux chambres séparées avec le Qatar et les Américains qui font les intermédiaires entre Israël et le Hamas. On peut dire que l'ouverture de ces négociations se fait dans un climat d'optimisme prudent. Pourquoi prudent ? Parce que certes, le Hamas a dit oui, mais oui, comme toujours avec un mais, et notamment sur deux points qui sont cruciaux pour Israël, sur lesquels Israël passe, à savoir le Hamas veut que l'aide humanitaire revienne par par l'intermédiaire du Hamas et non pas par l'intermédiaire des Américains, comme c'est le cas actuellement. Israël dit non à cela. Et la deuxième exigence du Hamas, c'est qu'il y ait que Israël se retire de la plupart en fait de la bande de Gaza. Israël n'est pas prêt du tout à se retirer de l'ensemble de la bande de Gaza, en tout cas des zones stratégiques de Gaza, en tout cas pour le début de ces négociations. Pour l'optimisme, Elsa, à mon avis, on peut voir plusieurs facteurs. Premier facteur, le fait qu'il y a une pression militaire sérieuse à Gaza. En fait, le Hamas, en tant que force militaire, n'existe carrément plus à Gaza. Deuxième raison, l'effet, l'impact de la guerre en Iran. L'Iran qui soutenait le Hamas. Le Hamas comprend qu'il n'y a plus de soutien ni du Hezbollah, ni de l'Iran. Il y a un impact. Raison, Trump qui veut quelque chose, qui veut la paix, qui veut l'arrêt de la guerre. Et ça, c'est également une raison cruciale. Et la quatrième raison, à mon avis, c'est Netanyahou. Aussi pour des raisons politiques intérieures, mais également pour des raisons de la menée de la guerre avec le soutien de Tzal, veut également qu'il y ait un accord. C'est pour cela donc qu'il y a certes prudent, mais un optimisme.
Et on continue avec ce qui se passe, ce qui va se passer à Washington, Cathy. Le Premier ministre israélien qui arrive et qui déclare, selon lui, c'est donc des opportunités de paix plus importantes que ce qu'ils avaient imaginé, qu'ils sont en train de se dégager.
Cette déclaration est une déclaration très spectaculaire, hein. Mais il ne faut pas comprendre, à mon avis, dans cette déclaration qu'on va assister à Washington lors de la rencontre dans la Maison-Blanche, autour d'un dîner d'ailleurs, qui est présenté comme la victoire, un dîner de la victoire sur l'Iran. On ne va pas assister à une déclaration de paix avec la Syrie, l'Arabie Saoudite, etc. Ça non, mais on va assister à une déclaration d'intention. Et c'est ça que voulait dire Benjamin Netanyahou. La victoire spectaculaire sur l'Iran ouvre des opportunités énormes au niveau d'un nouveau Moyen-Orient, au niveau de liens de paix entre Israël et plusieurs pays. On parle de l'Indonésie, on parle de Oman, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle même de la Syrie. Et à mon avis, c'est ce que voulait dire en fait Benjamin Netanyahou. Il y a là quelque chose de totalement nouveau qui a été permis justement grâce à la victoire sur l'Iran.
Et enfin, Cathy, dernier sujet avec vous ce matin, sur la PMA post-mortem. Donc en Israël, la mère du soldat Maor Eisenkot qui a été tué à Gaza et qui obtient gain de cause. Vous nous en dites un peu plus?
Absolument. Je crois que c'est un des sujets les plus délicats et tragiques, hein. Depuis le début de la guerre, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs centaines de soldats qui ont été tués. Et ce sujet de la procréation post-mortem, à savoir qu'on prend le sperme d'une personne qui est morte et ensuite on peut permettre une procréation par l'intermédiaire d'une mère porteuse, ça a toujours été un sujet qui existait en Israël vu les guerres, mais qui n'a jamais été véritablement en fin de compte appliqué. Et là, depuis la guerre, il y a eu vraiment plusieurs dizaines et même, je peux dire, même plus de femmes, d'épouses ou de parents qui ont voulu justement utiliser le sperme de leur enfant, de leur soldat tué, pour ensuite avoir un petit enfant, une petite fille, un petit fils ou un enfant pour le cas d'une épouse. Et là, il y a eu le combat véritablement qui a duré depuis des mois, très médiatisé, de Sharon Eisenkot, dont le fils Maoz est tombé à Gaza il y a presque un an maintenant. Il s'agit du neveu de l'ancien chef d'état-major Eisenkot, qui est aujourd'hui un homme politique, qu'on se rappelle que son fils a été tué et que deux semaines après, son neveu a été tué. Là, il s'agit donc du neveu et le tribunal des affaires familiales a donné gain de cause à Sharon Eisenkot. Il y a dit oui, vous pouvez prendre le sperme qui a déjà été pris, vous pouvez l'utiliser avec une mère porteuse et pour avoir un enfant, un petit enfant. Et il faut comprendre que cette décision était, disons, très spectaculaire, unique. Ouais. Et il y aura en chaîne une série de conséquences. On voit déjà plusieurs femmes, plusieurs parents qui veulent également faire la même chose et utiliser le sperme de leur soldat tué au combat. Et je crois qu'on a déjà dit ça à plusieurs reprises, mais cette affaire prouve de nouveau que la société israélienne fait face à des défis quasiment inhumains. Une des seules sociétés au monde qui fait face à des défis de ce type-là. Et cette affaire de Sharon Eisenkot en est la nouvelle preuve.